Alors tu veux faire danseur?
And push. And turn and table dance.
Qu'est-ce que ça te fait au juste lorsque tu danses?
Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Préciser.
Je suis heureuse et fière de faire partie de l'affiche de ce spectacle.
Transmettre au millimètre près les mouvements.
J'ai fait de la danse dans mon jeune temps.
Ça suffit, on se tourne vers le miroir, allez!
C'est lever, c'est baisser, marcher, sauter, sautiller, s'allonger, tomber. Bienvenue à nouveau dans votre rencontre hebdomadaire, votre déroute chorégraphique hebdomadaire de la danse, votre émission Mon en chaussure. Aujourd'hui, nous avons une ouverture un peu pensive. Je vais essayer de vous décrire l'image que j'ai de l'auteur du texte que nous explorons ensemble de la poétique de la danse contemporaine de Laurence Loupe. À l'intérieur du livre, il y a une photo de l'auteur qui a son index sous le menton avec un air pensif. Ses cheveux sont expansifs, sont volumineux, et il a un regard dans une sorte d'invitation qui m'a toujours hanté, qui m'a toujours paru très séduisant, en plus bien évidemment de sa syntaxe et de ses riches descriptions à l'intérieur de ces livres que nous partageons depuis un petit moment ici dans cette émission. Donc je voulais un peu vous partager cette image que j'ai dans la tête. Et nous continuons donc cette intéressante exploration qui peut être utile pour les personnes qui font de la danse, mais aussi pour les personnes qui pensent la danse. Parce que cette émission est dédiée à tous ces êtres qui sont intéressés à bouger ou à faire bouger ou à faire partie de cet univers où nous réfléchissons à notre corps, à la façon dont nous l'utilisons dans la modernité, dans la contemporanéité, dans la discipline artistique, dans le travail, dans la vie tout simplement. La dernière fois, on était resté avec cette intéressante réflexion sur le mouvement quotidien qui a été prélevé par un chorégraphe et lors d'une sélection artistique qu'il fait pour son projet, son travail, et comment tous ces opérations, tous ces traitements par beaucoup de personnalités ont donné des aperçus très 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 distincts, très très différents. Et aujourd'hui donc nous sommes confronté à ce que les anglo-saxons ont appelé les pedestrian movement. Pedestrian parce que c'est bien évidemment en deux pieds, parce que c'est quelque chose qu'on fait quand on marche et qui est enlevé du quotidien de nos actes, de nos habitudes, de nos comportements de tous les jours. Et donc en gros, c'est des mouvements qui sont hors l'univers chorégraphique, qui sont hors tout l'appareillage et tous les catalogues techniques que par exemple un danseur a été habitué avec son travail technique. Et ça dépendra bien évidemment de la technique. Et donc, on se pose beaucoup la question de pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à cette reprise de la vie quotidienne dans les spectacles et quel intérêt ça peut porter. Et donc on se pose beaucoup cette question de quelle fonction ont ces gestes qui sont utiles dans notre existence, mais que quand ils sont posés et la manière comme ils sont pris par les chorégraphes et sont plutôt pris dans une absence d'accentuation, dans une discrétion, un refus de l'emphase de ce mouvement dansé et qui sont pris dans son nature un peu neutre, plutôt dans son apparence neutre. Et donc, est-ce qu'il s'agit là d'un refus de prendre de l'envol, de tout cet souhait qu'il y avait encore, qui voulait absolument, comme une qualité d'envol. Et donc, quelle est cette fonction de notre quotidien dans le spectacle, et quelle qualité est conservée justement pour cet intérêt artistique de nos chorégraphes. Et donc là, on voit bien évidemment que c'est des comportements intransitifs, c'est des comportements qui s'expliquent à eux-mêmes, qui n'ont que cette fonction-là de l'acte en lui-même. Et on l'avait vu dans notre émission précédente. Et donc forcément, quand on met encore à s'asseoir, quand on met encore à se déshabiller, quand on met encore à sautiller ou à s'allonger, forcément, là, tout de suite, on a un rappel absolument intéressant et important des « est-ce que c'est du théâtre ?» ou « est-ce que c'est de la danse ?» Et donc, c'est là où il y a une frontière extrêmement difficile à cerner. Du fait que, parfois, c'est fait en provocation effacer ces limites si cloisonnées des arts qui parfois posent beaucoup de problèmes philosophiques et épistémologiques. Et donc cette distinction est très intéressante dans la mesure où on peut dire que le théâtre est plus dans la mimesis, dans la représentation, dans quelque chose qui est fait à partir de l'excès. Tandis que dans la danse, on s'intéresserait plus à l'accentuation et à, par exemple, la répartition du poids. Non, donc, dans le théâtre, on va dire « cette personne s'assied de cette façon ». Et dans la danse, on va s'attarder à dire « bon, répartit son poids de cette façon ». La translation du poids de la hanche, du pied droit au pied gauche, et c'est ça un peu ma façon de voir comment ça pourrait se distancier, même si parfois aussi on pourrait pas forcément distinguer parce que ça dépendra beaucoup de l'œuvre qu'on regarde, mais là je répète, je parle d'une façon générique pour essayer de nous guider dans cette exploration qui est bien évidemment très technique, mais j'essaye quand même de la rendre un peu lisible. Et donc, dans tous les cas, ce geste qui est là, sur le plateau, il va utiliser des codes de reconnaissance. On va forcément devoir pouvoir dire « Ah oui, cette personne est en train de s'asseoir. Cette personne est en train de s'habiller. Ah non, cette personne, elle n'est pas forcément en train de s'asseoir. Elle répète les gestes, elle ne s'assied pas forcément, mais elle effectue quand même l'effort et elle nous laisse une autre impression, elle nous laisse une autre qualité. Et donc c'est dans cette liminarité où on peut profiter d'une analyse, au-delà de dire si c'est du théâtre et de la danse. Mais en tout cas, il y a des façons de la percevoir, et bien évidemment ça dépend beaucoup de la formation de l'œil. D'où nous venons, c'est pas la même chose si on a été formé dans une école de théâtre ou dans une école de danse, ça c'est une évidence. Mais donc dans la danse, on va plutôt avoir un intérêt par les racines qui sont évidentes quand les mouvements est exécuté par la teneur de son énergie, de sa qualité, de cette façon, cette manière d'effectuer tel geste ou tel acte. Et donc, est-ce qu'il s'agit là d'un acte joué dans le sens d'une représentation, ou est-ce qu'il s'agit plutôt d'une actualisation de ces gestes? Donc oui, cette personne est en train de s'asseoir, mais de s'asseoir avec une actualisation, avec quelque chose qui est nouveau et qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant, de comment cette personne s'assied avec les habits qu'elle a, avec une nouvelle perspective, une nouvelle forme qu'on n'avait pas pour l'instant aperçu de cette manière. Et est-ce que ce geste donc est répété, mais comment? Et donc c'est là où se joue toute l'importance de cette poétique de la danse. Une autre catégorie qui est importante, c'est le trouver, un geste trouvé. Donc c'est pas un geste qu'on utilise tous les jours, mais c'est un geste que, avec l'entraînement et le travail du mover, du danseur, du performeur, il va trouver lui-même, il va réussir à faire quelque chose qui lui paraît nouveau, qui lui paraît n'est pas fait comme ça, de cette façon auparavant. Et ça fait un rappel à cette catégorie de l'art qui s'appelle le junk art. C'est des œuvres d'art qui sont faites à partir des matériaux de récupération, des matériaux qu'on utilise tous les jours. Et les artistes vont, le travail de l'artiste va consister à, avec des méthodes, à perfectionner, à montrer une utilisation sublimée de, par exemple, du plastique ou du gobelet, etc., des matériaux qui sont triviaux et banals dans l'usage qu'on fait de tous les jours. Et c'est là où on fait une évocation à, par exemple, quand Cunningham s'asseyait ou s'habillait ou s'est déshabillé sur le plateau. Cunningham, c'est un grand chorégraphe du XXe siècle qui a énormément transformé le monde chorégraphique que vous connaissez peut-être, sûrement. Il évacuait toute intensité théâtrale du geste. Et c'est une opération extrêmement importante dans la façon comment on présentait les gestes, parce que il était évacué de sa formalité, il était utilisé tout simplement comme la matière première de ce qu'on voulait montrer. Donc il n'y avait rien derrière. On ne s'assied pas parce que, par exemple, dans les théâtres, on va plutôt utiliser ce parce que, donc on s'assied parce que c'est le siège du trône et il va usurper le trône de l'ancien roi. Et donc chez Cunningham, il n'y a pas toute cette théâtralité, il y a vraiment un renvoi au symbolique, à cet univers où il n'y a pas une fonctionnalité. La fonctionnalité initiale. Donc on s'asseyait parce qu'on allait faire telle chose. Et donc c'est là où on voit ce travail dans les plus grandes manifestations de ce comportement transitif où on va prendre à la lettre et ces actes qui nous sont constitués depuis les débuts de notre histoire évolutive. Aujourd'hui, nous avons ramené des notes et très légères qui vont nous accompagner dans cette exploration qui est toujours un peu nerveuse, un peu et influencée par cette pensée qui fait penduler entre la vie et l'art. Thank you. et avec les notes de cette musique si mystérieuse et délicieuse d'un compositeur né en Roumanie et naturalisé autrichien, Gheorghe Ligeti, un compositeur que j'apprécie beaucoup, bien évidemment. Beaucoup d'entre vous connaissez peut-être. Nous revenons avec une invitation intéressante à réaliser pour les chers auditeurs dans cette divergence FM. Et je vous propose de faire un exercice pour prouver, pour éprouver plutôt que prouver, pour éprouver vous-même dans vos maisons, dans vos lieux de travail. Cette exploration que nous venons, que nous faisons depuis un moment avec notre émission, d'une dénaturalisation de l'action. Donc vous allez prendre une action tout simple, par exemple fermer les robinets, soulever un tapis, accommoder un pot de fleurs, vous arranger la blouse, etc. Vous pouvez prendre une action qui va avoir un début, une fin, pour pouvoir effectuer la répétition de cette action. Et vous allez faire quatre pas. Le pas que je vais vous décrire pour faire l'expérience de ce que vous allez ressentir, de comment vous allez le vivre. Donc, le premier pas, c'est faire l'action trois fois. Donc, vous allez fermer le robinet une fois, deux fois, trois fois. Cette premier pas, c'est juste une répétition pour comprendre où est le début, où est la fin de l'action que vous avez choisie. Le deuxième, c'est le faire une fois au ralenti. Donc une fois qu'on a répété trois fois la même action et qu'on va la faire au ralenti, il va apparaître des choses. Et c'est là où vient le troisième pas. C'est là où on va le refaire une autre fois au ralenti, mais cette fois-ci, on va observer les segments qui apparaissent. Donc les résistances musculaires, par exemple, ça dépendrait. Si vous êtes en train de soulever un tapis, bah forcément, ce n'est pas la même implication que fermer un simple robinet. Bien évidemment, vous pouvez, vous avez le choix de prendre l'objet, carrément de le faire avec l'objet, ou de pas faire l'objet. Mais en tout cas, dans cette troisième phase, ça serait plus une observation par exemple, du contrôle que votre corps doit effectuer pour pouvoir et faire l'action au ralenti, qui implique beaucoup plus de muscles, beaucoup plus d'attention que quand vous la faites normalement tous les jours ou comme vous l'avez fait dans la première phase trois fois. Et le quatrième, c'est pas faire des mimesis. Non, c'est pas une représentation de l'action. C'est l'action concrète en elle-même, l'action brute, qui va vous permettre d'analyser et de décortiquer les diverses phases qui existent. Cet exercice qui peut paraître anodin, c'est un exercice extrêmement utile pour beaucoup d'aspects. Bien évidemment, nous sommes dans un monde des spectacles. Mais il s'agit aussi de savoir comment votre corps fonctionne, de comment vos muscles réactivent des informations sensorielles et émotives lors de cet exercice. Et pour vous donner une piste intéressante créative, vous pouvez regarder sur Internet, sur la web, le solo de Susan Link. Link, c'est L-I-N-K-E, où elle travaille autour d'une baignoire. Et c'est là où vous allez comprendre un peu l'intérêt de mon exercice, parce qu'elle, effectivement, travaille autour de cet objet qu'on connaît peut-être beaucoup d'entre nous dans nos maisons. Et c'est dans ces glissements, c'est dans cette relation qui est établie entre des gestes qui sont inavouables. Ce n'est pas des gestes qu'on va faire tous les jours, mais c'est une exploration de l'utilisation du corps qui forcément va parler beaucoup de qui nous sommes, de comment nous nous relions à, aux objets, mais aussi de comment nous sommes situés avec notre vie et notre façon de concevoir notre univers et notre relation avec cet univers. Donc forcément, voir à Susan Link, c'est un plaisir de voir, de dire, bon, je vais prendre ma douche aujourd'hui et je vais danser comme Susan Link autour de la baignoire. Bien évidemment, il y a beaucoup de contre-usage, il y a beaucoup de choses qu'on ne ferait pas du tout de cette façon et dans la vie réelle, mais quand on peut se permettre d'avoir ce plaisir de bouger de cette façon, d'avoir une relation très particulière avec les objets, on se rend compte comment la danse elle nous habite au quotidien et que ce n'est pas que les artistes qui peuvent avoir ce plaisir, mais que nous, dans notre vie quotidienne, on a toujours la possibilité de le faire. Et pour moi, ça c'est quelque chose de personnel, c'est là où je vois l'interrogation chorégraphique dans son délire maximal. Poser des questions aux objets. Comment ma tasse d'été, comment ma tasse de café peut me résoudre un problème que j'ai dans la tête, pas forcément mental, mais peut-être un problème tout simplement bête. Et pour moi, la chorégraphie, à moi, ça m'a permis de revoir la vie autrement et de m'accompagner des choses qui nous habitent tous les jours d'une façon un peu plus poétique. D'où l'intérêt de explorer ces textes si compliqués, si techniques de Laurence Loupe, qui est certes très poétique, mais que parfois on a du mal à naviguer parce que c'est profond, c'est très riche. Et donc ces travaux de Laurence Loupe étant partie, et aux yeux de ce qu'on va regarder, de ce qu'on a regardé aujourd'hui, il s'occupe du rôle qu'il va jouer. Ces prélèvements qu'on fait de la vie quotidienne, ce geste qui est trivial, et quel rôle il va jouer dans les processus créatifs. Et donc là, on va explorer des concepts très techniques qui peuvent nous sauver, nous donner des idées, et surtout quand on va regarder des spectacles ou des performances, ou quand on va essayer de décrypter des choses qui sont évidentes pour les danseurs, pour les chorégraphes, mais qui pour les publics en général vont être un peu plus difficiles à cerner. Donc on parlait, donc il s'agit du jeu en termes de représentation, du régime de la représentation. Est-ce que nous sommes en train de juste de dire, ah oui, je me douche, ah oui, je pose ma main sur la baignoire, et je suis juste en train d'imiter ces gestes quotidiens. Ou est-ce que je suis en train de le dénaturaliser, comme bien Michel Febvre le dit, je le vide complètement de sa fonctionnalité, je le travaille comme si c'était une matière brute. Ou est-ce que je interromps quelque chose, je fais une fixation dans le temps de ces gestes qui me sert tous les jours, mais que moi je m'en concentre à les détacher de sa durée. Ou est-ce que je les détourne? Non, je le détourne complètement de ce lieu-là où il devrait y aller naturellement, actuellement. Et ou est-ce que je les surcode? Parce que dans la danse, ça se passe souvent. Je vais surcoder, je vais engager beaucoup plus sa signification et son côté symbolique. Et donc c'est là où apparaît notre premier un concept qui peut nous aider, c'est la non-danse, un concept que Gérard Maillan dans l'interview qu'on l'avait proposé, nous avait parlé. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la non-danse, c'est un courant de la danse qui propose de prendre l'action pure. Donc c'est s'asseoir dans son action, dans le ralliement le plus simple, sans objectif et sans aucune intention. C'est un peu le, de façon schématique, un peu le but sans but. Après, on a une autre grande catégorie qui est là dans la performance. Donc, par exemple, quand on va donc c'est les mêmes actes, je vais dire à une personne, vous allez traverser tel espace, sauf que cet acte précis va produire une utilité. Donc la personne, elle va traverser l'espace, mais parce qu'on sait qu'en traversant cet espace, à la fin, il va avoir, ou durant ces déplacements, il va avoir, qu'il va se passer quelque chose. On va la transformer d'une façon très, très spécifique. Et ça, c'est plus dans l'univers dans la performance. Une troisième conception, c'est la motion de Nicolaïs, où on va, au contraire, dans l'opposé de la non-dance, on va ressentir dans la totalité l'acte. Donc oui, on va traverser l'espace, mais on va chercher toute une notion de présence. On va être avec une conscience du corps dans sa globalité où il est complètement à l'opposé de la non-danse. Donc c'est des explorations avec la même, peut-être le même geste, mais avec une conception complètement différente. Et on observe que, par exemple, dans la non-danse, il y a une négativité. Donc, on va dire cette action, elle ne signifie rien de plus que l'action en elle-même. Et donc, on va travailler par négativité. Donc, on va avoir un traitement de vide. Donc, on n'explique pas pourquoi cette personne veut s'asseoir sur cette chaise, mais on va tout simplement utiliser le vide qui représente. Va vider la signification de l'action. Aujourd'hui, nous sommes un peu courts de temps à chaque fois. Je vais tout dire, je vais tout inclure dans cette émission. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous retrouve la semaine prochaine pour continuer cette exploration des intentions humaines, les grands dépôts de l'humanité. À travers le mouvement, et je vous souhaite une bonne exploration avec votre exercice des gestes quotidiens.
Alors, tu veux faire danseur?
And push, and turn, and people.
Qu'est-ce que ça te fait au juste lorsque tu danses?
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, préciser?
Je suis heureuse et fière de faire partie de l'affiche de ce spectacle.
Transmettre au millimètre près les mouvements.
J'ai fait de la danse dans mon jeune temps.
Ça suffit, on se tourne vers le miroir, allez !